Léa Salamé, votre invitée ce matin est la présidente de la FNSEA.
Bonjour à vous, Christiane Lambert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron a donc passé 14 heures. Il a battu son record au Salon de l'Agriculture samedi. Dans son discours, il a parlé de souveraineté alimentaire, de patriotisme. Et alors que nous sommes en pleine négociation dans l'Union européenne, il a promis, je le cite, une PAC réinventée. Avez-vous été convaincu par les mots du président ?
D'abord, c'est un très bon signal que le président de la République ait choisi de parler d'Europe, en plus devant un porteur de jeunes et de jeunes européens. À l'origine, la politique agricole a été conçue pour que les Français puissent manger de façon accessible, diversifiée et de façon saine. Ça paraît acquis aujourd'hui, mais on voit tous les jours que ça pourrait être chamboulé. Donc, réaffirmer que la sécurité alimentaire, à côté du changement climatique, à côté de l'environnement, est quelque chose d'essentiel, me paraît très important. Et puis, il a dit aussi que nous étions sous un feu nourri entre Trump d'un côté et la Chine de l'autre, et que l'Europe était la bonne taille pour envisager sa politique agricole et alimentaire.
Reste que les négociations sont en cours, que le budget de la PAC va baisser puisqu'avec le Brexit, les Anglais ne vont pas contribuer à la PAC. Ça veut dire 15% en moins pour le budget de la PAC. Combien ça veut dire pour les agriculteurs? Combien ils vont perdre, chaque agriculteur français?
Ça peut représenter jusqu'à moins 7 à moins 8% pour les agriculteurs. Et ce qu'il a pointé aussi, ce sont les dissidences et les divergences à l'intérieur de l'Union européenne. On a tous en mémoire que l'accord Chirac-Schröder avait été fondateur pour la politique agricole commune. C'est le couple franco-allemand qui est déterminant. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que Mme Merkel et l'Allemagne va être aussi engagée à côté de M. Macron? Est-ce que la France et l'Allemagne vont retrouver un deal commun pour la politique agricole commune?
Aujourd'hui, c'est votre inquiétude, parce que c'est ce que dit notamment l'opposition politique, que ce soit Marine Le Pen ou les Républicains. Ils disent, c'est très bien les grandes incantations d'Emmanuel Macron sur le souverainisme alimentaire ou sur le patriotisme, reste que le budget va baisser et qu'il va falloir aller le négocier parce que les agriculteurs vont le ressentir.
Le budget va baisser principalement à cause du Brexit. On connaît tous le désastre économique que ça va représenter pour ce pays et les agriculteurs anglais, mes homologues, sont très inquiets. Par contre, on voit aussi côté Italie, avec les déclarations intempestives de Salvini, côté Hongrie, avec Orban, qu'il y a quand même aujourd'hui des europhobes qui parlent fort. Or, la politique agricole commune, c'est un marché unique de l'alimentation, et donc c'est très important de le préserver. Et nous souhaitons-nous que sur l'agriculture et sur l'alimentation, avec le changement climatique et l'environnement en codicille aussi, on puisse trouver un accord.
Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts propose que 50% de l'argent de la PAC aille vers l'agriculture paysanne et l'agriculture biologique. 50% pour la patronne de la FNSEA, c'est de la folie?
Écoutez, Monsieur Jadot est coutumier des déclarations intempestives. On va voir aussi les scores qu'il fera.
Ça, c'est dans deux mois. Mais oui. Pourquoi c'est intempestif de dire
non,
ça?
Non, parce que c'est minimiser les évolutions successives de la politique agricole commune. À l'origine, dans la PAC, il n'y avait rien pour l'environnement. Parce que dans les années 60, c'était un sujet pour personne. Aujourd'hui, c'est un sujet pour tout le monde. Et depuis les années 90, la politique agricole commune a intégré le sujet environnement. Aujourd'hui, il y a deux piliers dans la PAC. Un pilier économique et un pilier environnement et territoire. Et il est question dans la PAC en projet aujourd'hui d'avoir même dans le pilier 1 des éléments environnementaux et d'obligations pour les agriculteurs.
Donc vous dites c'est bien suffisant, vous dites qu'il ne faut pas nous en demander plus.
Mais madame, c'est déjà beaucoup et il faudrait que monsieur Jadot regarde d'un peu plus près qu'est-ce qu'il y a. Il y a des soutiens pour l'agriculture de montagne, il y a des soutiens pour les zones humides, il y a des soutiens pour différentes problématiques, pour l'accompagnement de l'agriculture biologique qui est en pleine expansion en France en ce moment.
6200 agriculteurs sont passés au bio en 2018. 18, c'est un record.
Oui.
Vous le saluez, vous espérez qu'il y en ait plus encore l'année prochaine?
Au sein de la FNSEA, dans mon conseil d'administration, j'ai 7% d'agriculteurs qui sont en bio parmi les responsables. C'est équivalent au pourcentage français. La France a fixé un objectif de 15% d'agriculture biologique. C'est un bon objectif, mais il faut beaucoup travailler pour l'atteindre.
Oui, d'accord. Mais comment vous expliquez que malgré les campagnes médiatiques, malgré les études scientifiques, l'utilisation des pesticides et des phytosanitaires ne baisse pas en France? Pourquoi les agriculteurs continuent, c'est même en légère augmentation en 2017, continuent à arroser leurs champs de pesticides?
Alors, ils n'arrosent pas, ils soignent leurs plantes, madame, première chose. Et l'utilisation des produits phytosanitaires, il y a différentes façons de la mesurer. Si vous allez sur le site du ministère de l'écologie, et je vous invite à y aller, Transition écologique, et solidaire. En page très proche, il y a un tableau qui montre la diminution lente, certes, mais lente des produits phytosanitaires. Après, il y a l'indicateur qui est choisi, c'est le nombre de doses utilisées. La France a supprimé, depuis le Grenelle de l'environnement, 53 molécules. Nous sommes le pays d'Europe qui en a le plus supprimé. Nous sommes le pays qui, sur les 20 dernières années, a baissé légèrement sa consommation alors que les autres pays augmentent. Mais les agriculteurs aujourd'hui ont intégré ces problématiques-là et sont conscients qu'il faut moins de chimie. Et pour y arriver...
C'est pas ce que disent, pardon, le site Reporter, par exemple, estime qu'en Ile-de-France, on a connu de 2008 à 2015 une augmentation de 22% d'utilisation des phytosanitaires.
Alors, il y a aussi parfois des raisons climatiques qui l'expliquent. Notre activité est à ciel ouvert. Mes champs sont sous le soleil ou la pluie. Et quand il fait chaud et humide, ça favorise la prolifération, notamment des maladies. C'est pourquoi la FNSE, avec 43 partenaires, signe ce soir avec le ministre de l'Agriculture au nom du gouvernement, puisque c'est M. Macron qui l'a annoncé pendant le grand débat, un contrat de solution pour la protection des plantes. Objectif, réduire les phytos. Nous sommes 43 partenaires, c'est jamais arrivé, c'est porté par la FNSEA qui porte le drapeau.
Après avoir promis l'interdiction du glyphosate d'ici 3 ans, Emmanuel Macron a reconnu que ce ne serait pas faisable à 100% d'ici 3 ans. Les écologistes ont dénoncé un recul. Vous, en revanche, vous avez salué le geste. Combien de dérogations espérez-vous, Madame Lambert? Que 30% des terres puissent continuer à utiliser du glyphosate dans 3 ans?
Ça ne sera pas sur les terres, ça sera plutôt sur des productions ou des modes de production. On sait qu'aujourd'hui, pour traiter les vignes et les vergers en pente, c'est très difficile à dos d'homme. Vous connaissez les terrasses escarpées. On sait aussi que pour l'agriculteur de conservation des sols, qui a banni le labour pour être bénéfique pour la capture carbone, c'est nécessaire d'utiliser du glyphosate. Donc hier, le président de la République a dit, et le ministre aussi, que nous serions alentour de 15 à 20% de situations où il faudrait le conserver.
Et vous demandez plus?
Je ne demande rien du tout. Je demande que la science cherche et trouve des solutions.
Alors,
et
une solution, il y en a une.
On l'élimine.
Est-ce que les robots de désherbage, c'est pas la bonne solution face au glyphosate?
C'est une des solutions dans la panoplie de solutions. Les robots qui, de façon mécanique, dans les vignes, dans les champs, dans les planches de maraîchage, vont intervenir. C'est pas possible dans tous les domaines, mais oui, c'est une des solutions. Et ils sont très présents à l'autre salon, celui dont on parle peu, à Villepinte, qui présente toutes les innovations en machinisme.
Un projet de porcherie géante est en voie d'être installé dans l'Allier, apprend-on dans le journal Le Monde. Elle pourrait accueillir jusqu'à 1944 porcs dans une zone naturelle sensible. C'est beaucoup plus que la taille moyenne des élevages français. Les écologistes et les riverains se battent contre ce projet. Il y a déjà une pétition signée par 80 000 personnes. Est-ce que vous soutenez cette porcherie géante dans l'Allier?
Je ne connais pas ce projet en particulier. Ce que je sais par contre, c'est que ce projet est soumis à une réglementation draconienne et c'est au préfet et au commissaire enquêteur de dire si ça convient ou si ça ne convient pas. Vous savez, les chiffres sont toujours... c'est comme si on disait le nombre de produits dans le petit Franprix qui est à côté de l'hôtel où je dors pendant le salon. J'ai été impressionnée de voir que ce sont des petites portions, donc c'est plus les grandes boîtes, c'est les petites boîtes. On a multiplié les références et pour autant, est-ce que c'est un magasin moins bien? Pas sûr. Ça correspond aux besoins d'aujourd'hui. Si les règles sont respectées pour les épandages, pour les émissions et pour le bien-être des animaux...
Vous dites pourquoi pas une ferme à 2000 porcs quoi.
Écoutez, 2000 porcs, ça veut dire quoi? C'est combien d'animaux?
Je crois que vous avez une porcherie et vous en avez 350.
J'ai 350.
Pas 2000.
Non, 250. 235 même en autorisation d'exploiter, soyons précis. Et nous travaillons à 4 sur l'exploitation.
Christiane Lambert, dernière question. L'agriculture française est la première d'Europe. Elle est largement excédentaire. Comment vous expliquez qu'il y a 70 000 postes qui restent à pourvoir dans le secteur agricole, notamment dans la laiterie, dans le transport des animaux, chez les vétérinaires? Pourquoi vous n'attirez pas?
Parce que nos métiers sont méconnus et parce qu'il y a trop de discours négatifs à propos de l'agriculture. On parle de ce qui va mal, on ne parle pas de ce qui va bien. Il y a très belle réussite en agriculture. Il y a des agriculteurs qui s'en sortent très bien et qui embauchent. Il y a, c'est vrai, des gens qui vont moins bien, il faut s'occuper de tous les publics. Mais je dis aux jeunes, traversez la rue, non, traversez la France et venez travailler dans les exploitations et dans les entreprises agricoles françaises.
Il faut changer de département, c'est ça? Un ou deux départements et on trouve du boulot, c'est ce que
oui,
vous dites.
Et en Maine-et-Loire, il y a beaucoup de postes à pourvoir.
Merci beaucoup Christiane Lambert. Merci d'avoir été avec nous et belle journée.